pas pour ces gens-là. » Qu'a-t-il voulu dire par ces gens-là? Agacée par sa réponse, elle décida de se lancer dans ce qui allait devenir la plus grande expérience d'empathie radicale du XXe siècle. Elle allait découvrir ce que signifie être une femme de 85 ans. « Je ne voulais pas me contenter d'être une actrice faisant semblant d'être une personne âgée », m'a-t-elle confié. « Je voulais vivre une véritable immersion dans mon personnage, un personnage empathique, qui me permettrait réellement de vivre la vie de quelqu'un d'autre. » Elle se métamorphosa donc avec l'aide d'un maquilleur professionnel. Elle se couvrit le visage de couches de latex pour avoir l'air vieille et ridée, porta des lunettes inadaptées pour faire baisser sa vue, se boucha les oreilles pour ne plus entendre correctement, enfila un appareil orthopédique et enroula son torse dans des bandes pour se tenir voûtée. Fixa des attelles à ses bras et ses jambes pour ne plus pouvoir les plier. Elle paracheva son déguisement avec des chaussures à semelles inégales pour être obligée de boiter et de céder d'une canne. Elle était prête. Entre 1979 et 1982, Moore visita plus d'une centaine de villes d'Amérique du Nord dans la peau de son personnage, en essayant d'évaluer le monde autour d'elle, d'identifier les obstacles quotidiens que les personnes âgées devaient affronter, et de voir comment elle s'en sortait. Elle essaya de monter et de descendre les escaliers du métro, d'emprunter des bus bondés, de traverser des boulevards avant que le feu ne passe au vert, de se servir d'ouvre-boîtes et bien évidemment d'ouvrir des réfrigérateurs. Le résultat de cette immersion? Moore orienta le design de produits dans une toute nouvelle direction. En se basant sur son expérience, elle conçut une série de nouveaux produits adaptés aux personnes âgées, y compris celles souffrant d'arthrite. Ses inventions comptaient une gamme d'épluches-légumes et d'ustensiles de cuisine munis de grosses poignées en caoutchouc que l'on trouve aujourd'hui dans toutes les maisons. Moore est considérée comme la créatrice du design inclusif ou universel, dont les produits sont adaptés à tous, de 5 à 85 ans. Elle devint experte en gérontologie et militante influente des droits des seniors. Elle joua un rôle essentiel dans l'introduction de l'Americans with Disabilities Act dans la législation. Sa carrière fut guidée par l'envie d'améliorer la vie d'autrui, plus que par l'aspect financier. Le projet le plus récent de cette femme, aujourd'hui sexagénaire, est de réviser la conception des centres de réhabilitation dans lesquels les soldats américains de retour d'Afghanistan et d'Irak ayant perdu un membre ou subi des lésions cérébrales peuvent réapprendre à vivre de manière indépendante, en s'entraînant à faire des courses ou à utiliser un distributeur de billets. Moore est devenue célèbre pour son modèle empathique qui a éclairé toute une génération de designers, dorénavant conscients qu'il est important de se mettre à la place des personnes pour lesquelles ils conçoivent leurs produits. « Le design universel repose sur l'empathie », explique-t-elle. « Ce qui convient à une personne ne convient pas forcément à toutes, et cela a été le fil rouge de ma carrière. » Son expérience de voyage intergénérationnel a marqué un virage important pour les empathiques du futur. Faire l'effort de se mettre dans la peau de l'autre peut être difficile sur un plan personnel, parfois grisant, mais cela peut aussi potentiellement générer un changement social. Les 6 habitudes des personnes très empathiques. Si Patricia Moore a découvert le pouvoir de l'empathie dès les années 1970, pourquoi est-ce si à la mode aujourd'hui? Le concept d'empathie n'est pas neuf. Il prit de l'importance pour la première fois au XVIIIe siècle, lorsque le philosophe et économiste écossais Adam Smith écrivit que notre sensibilité morale dérivait de notre capacité mentale à prendre la place de celui qui souffre par le biais de l'imagination. Mais la récente explosion de l'intérêt pour l'empathie est largement due aux dernières découvertes scientifiques sur la nature humaine. Au cours des 3 derniers siècles, des intellectuels influents, de Thomas Hobbes à Sigmund Freud, nous ont répété que nous étions essentiellement des créatures égocentriques, cherchant à assouvir leurs besoins personnels. Peu à peu, cette image négative de l'être humain est devenue courante dans la culture occidentale. Cela étant, elle a été éclipsée ces 10 dernières années par la preuve que nous sommes aussi des homo empathicus et que l'empathie est inscrite dans nos gènes. La découverte récente de notre nature empathique est l'une des histoires les plus remarquables de la science moderne. Je la raconterai plus en détail dans le chapitre suivant. Mais pour résumer, on a vu des avancées révolutionnaires sur 3 fronts. Des neuroscientifiques ont identifié dans le cerveau humain un circuit empathique en 10 parties qui, s'il est endommagé, peut limiter notre capacité à comprendre ce que les autres ressentent. Des biologistes de l'évolution nous ont montré que nous sommes des créatures sociales qui ont naturellement évolué vers l'empathie et la coopération, tout comme nos cousins les primates. Des pédopsychologues ont révélé que même les enfants de 3 ans sont capables de se projeter pour envisager le point de vue d'autrui. Il est donc désormais prouvé que notre nature possède un côté empathique aussi fort que notre côté égoïste. Ce changement radical dans la conception de notre identité a commencé à faire son chemin dans la vie publique et a engendré une vague d'idées nouvelles sur l'éducation de nos enfants, l'organisation de nos institutions et sur ce dont nous avons besoin pour notre bien-être. S'occuper de soi en premier lieu est devenu une aspiration passéiste, alors que nous commençons à comprendre que l'empathie est au cœur de l'humain. Nous sommes au beau milieu d'une grande transition, de l'âge cartésien du « je pense donc je suis » à l'ère empathique du « tu es donc je suis aussi ». Malgré cette présence jamais vue dans les médias et les discussions publiques, il reste une question vitale que peu de personnes abordent. C'est celle qui se trouve au centre de ce livre. Comment développer son potentiel empathique? L'empathie a beau être inscrite dans nos gènes, nous devons tout de même réfléchir à la façon dont nous allons faire fonctionner nos circuits. J'ai passé plus de 12 ans à chercher une réponse à cette question en explorant les recherches en la matière, de la psychologie expérimentale à l'histoire sociale, de l'anthropologie aux lettres, des sciences politiques à la neurologie. Sur ma route, je me suis plongé dans les vies de pionniers de l'empathie. Vous les rencontrerez dans les pages qui suivent. Par exemple, un révolutionnaire argentin, un grand auteur américain, ou encore le journaliste infiltré le plus célèbre d'Europe. Je me suis également rendu sur le terrain et j'ai discuté avec des personnes de divers horizons de leurs expériences d'empathie ou de manque d'empathie. Infirmières ou banquiers, policiers ou mères travailleuses, sans-abri londoniens ou riches propriétaires de plantations au Guatemala. Tout le monde a une histoire à raconter à ce sujet. Ce que j'ai découvert, c'est que les personnes très empathiques ont toutes quelque chose en commun. Elles cultivent intentionnellement 6 habitudes. Un ensemble d'attitudes et de pratiques quotidiennes qui mettent en marche le circuit empathique de leur cerveau et leur permettent de comprendre comment les autres voient le monde. Le défi, si nous espérons révéler l'homo empathicus qui se cache en chacun de nous, est de parvenir à développer personnellement et au mieux ces 6 habitudes. Les 6 habitudes des personnes très empathiques. Habitude 1. Activer la zone empathique de son cerveau. Changer sa façon de penser pour reconnaître que l'empathie se trouve au cœur de la nature humaine et qu'il est possible de la développer tout au long de sa vie. Habitude 2. Faire un effort d'imagination. Faire un effort conscient pour se mettre à la place de l'autre, y compris de son ennemi, pour reconnaître son humanité, son individualité et son point de vue. Habitude 3. Rechercher des expériences et des aventures. Explorer des vies et des cultures différentes de la sienne, dans le cadre d'une immersion directe, d'un voyage empathique ou de coopération sociale. Habitude 4. Pratiquer l'art de la conversation. Être curieux des étrangers, savoir écouter, faire tomber le masque émotionnel. Habitude 5. Voyager dans son fauteuil. Se transporter dans la tête des autres via les arts plastiques, la littérature, le cinéma et les réseaux sociaux. Habitude 6. Inspirer une révolution. Générer de l'empathie à grande échelle pour créer un changement social et étendre sa capacité d'empathie à la nature. Ces habitudes conviennent à tous les tempéraments et à toutes les personnalités, que vous soyez extraverti ou introverti, aventurier ayant le goût du risque, ou amoureux de l'intimité et des émotions subtiles. Les intégrer au quotidien changera votre façon de penser, de ressentir et d'agir. Vous serez d'abord fasciné par la personnalité de l'autre et essayerez de comprendre comment elle s'est forgée, ses motivations secrètes, ses aspirations et ses croyances. Votre appréciation du fonctionnement de l'autre dépassera toutes vos espérances et, comme bien des personnes très empathiques, vous commencerez à trouver les autres plus intéressants que vous-même. Adopter ces 6 habitudes n'a rien d'utopique. La capacité d'empathie est l'un des talents cachés que possèdent presque tous les êtres humains, même s'ils ne s'en servent pas toujours. Seules quelques personnes ont un degré zéro d'empathie, selon l'expression du psychologue Simon Baron Cohen. Parmi elles, les psychopathes, au sens médical du terme, qui ont la faculté cognitive de se projeter dans l'esprit d'un autre, mais ne créent pas de lien émotionnel avec lui, ainsi que les personnes atteintes de troubles du spectre autistique ou du syndrome d'Asperger. Elle représente moins de 2%.